Amen. On va ouvrir ensemble notre livre préféré, notre Bible, dans le livre de Marc au chapitre 6. Marc au chapitre 6. Je ne sais pas si la Bible est votre livre préféré, mais en tout cas, c'est celui qui vous est de loin le plus utile. Je sais que c'est la rentrée scolaire, certains sont plongés dans leur livre de maths, leur livre de français, peut-être leur livre de philo pour que ceux qui sont en terminale. Mais il y a un livre au-dessus de tous les livres. Un livre qui a des milliers d'années et qui est une parole tellement puissante qu'aujourd'hui, elle est encore capable de changer ma vie. On va dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 6. Je pense que Dieu a infiniment plus pour vous que ce que vous pensez. Un des problèmes, c'est qu'on limite Dieu. On limite énormément Dieu dans nos vies. On est tellement pris par le travail, par... nos soucis du quotidien, que on ne donne pas accès à Dieu comme on pourrait dans notre vie. Dieu veut faire énormément plus pour toi que ce que tu peux imaginer. Moi, le thème de ce matin que j'ai sur mon cœur de partager avec vous, c'est vraiment découvre le potentiel que Dieu a mis en toi. Découvre le potentiel que Dieu a mis en toi. Il y a des choses extraordinaires que tu méprises dans ta vie et que Dieu voudrait utiliser avec grandeur. Il y a des choses toutes simples, des qualités que Dieu a mises en toi. Tu les vois plus et pourtant ils sont bien là et Dieu peut faire quelque chose avec cela si tu es prêt à le servir et à te mettre à son service, au service des autres. Dans le livre de Marc au chapitre 6, on prend à partir du verset 30. On parle des apôtres là. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus. Ils lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit: venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les bourgades, on accourut à pied, on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse, il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger, et il se mit à les enseigner longuement. Comme il se faisait déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux, dans les villages, des environs, pour s'acheter de quoi manger. Mais Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Ils lui demandèrent: mais faut-il que nous allions acheter 200 pièces d'argent de pain pour que nous leur donnions à manger? Jésus reprit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Amen. T'as quoi comme qualité ce matin? Quels sont tes moyens? Quelles sont tes ressources? Va voir. Ce matin, je voudrais qu'on fasse un peu l'inventaire de ce que Dieu a mis dans nos vies. Parce que si on a une fausse image de ce que Dieu a mis en nous, on va être vraiment déprimé ce matin. Et pourtant, Dieu a un potentiel. Dieu avait un potentiel et Dieu veut faire. Ce jour-là, c'est la suite. Vous avez peut-être, pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez vers où on va. On va vers une multiplication où il y a plus de 5 000 personnes qui vont manger. Et pourtant, ils ont 3 fois rien. Dieu a un potentiel inexploité en toi. Et vous savez, vous allez me donner 3 excuses pour ne rien faire. Et on va voir juste cela. Les 3 excuses que les disciples peuvent présenter à Jésus. Les disciples, ça veut dire quoi? C'est des personnes comme toi et moi qui se sont engagées pour Dieu. C'est-à-dire que si tu es venu ce matin, c'est parce que quelque part, tu te considères comme chrétien. On est d'accord là-dessus au moins. C'est-à-dire que tu as envie de plaire à Dieu, que ta vie serve à quelque chose. Si on n'est pas d'accord là-dessus, on ne peut pas aller plus loin. Les disciples, c'est ceux qui, lorsqu'ils allaient près de Jésus, comme vous avez fait l'effort ce matin de venir au culte, ils se sont dit: ok Seigneur, on est prêt à nous consacrer et à nous bouger pour toi. Bon. Et ben pourtant, il y a 3 excuses que les disciples vont présenter. Un, ce n'est pas le bon moment. Honnêtement, ce n'est pas le bon moment. Deuxièmement, il n'y a pas les bonnes personnes. Et troisièmement, il n'y a pas les moyens nécessaires. Tu pourras dire, premièrement, quand le moment il est mal choisi. De qui les personnes elles sont mal choisies. Et troisièmement, comment les moyens ils sont pas là. Tu as 3 excuses que les disciples vont présenter à Jésus pour essayer de bloquer le miracle. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce matin dans vos vies, ce qui limite le miracle, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas les problèmes, c'est vous. Ouh, je suis désolé, un grand silence déjà. Je crois vraiment que, en tout cas, peut-être pas pour vous, vous êtes plus spirituel que moi, mais en tout cas, beaucoup de limites dans ma vie, c'est moi qui me les fixe. Et je râle, et je crie, et je pleure, et je prie, mais les limites, c'est moi qui les ai fixées. Parce que je dis Dieu, ce n'est pas le moment. Parce que je dis Dieu, ce n'est pas les bonnes personnes avec moi. Et parce que je dis Dieu, je n'ai pas les moyens de le faire. Lorsque Matthew Barnett, je ne sais pas si vous connaissez son papa, Tony, c'est un grand, grand pasteur aux États-Unis. Et est-ce que vous avez dans votre famille des personnes qui sont juste brillantes, mais vraiment bien plus brillantes que vous? Et ça, c'est terrible, parce que quand vous avez un super bon dans votre famille, super connu, qui a tout réussi, quand vous comparez, c'est juste difficile de soutenir la comparaison. Et je lisais le livre de Matthew Barnett hier soir, et ce jeune, la première fois qu'il a prêché, il avait prévu un super sermon de 45 minutes. Il avait travaillé, il était allé à l'école biblique, il avait préparé son sermon comme jamais. Et le dimanche matin, quand il est arrivé vers l'estrade et qu'il a commencé à prêcher, ça a tenu 5 minutes tout compris. Bon, d'un côté, il y en a qui devaient peut-être être contents, mais bon. En tout cas, ça a duré que 5 minutes. Il est descendu de l'estrade, il était décomposé. Et vous savez, comme il y a toujours des personnes qui sont là pour vous encourager sans le faire exprès, il est passé près un petit peu comme une des pièces du fond, où il y avait les vieux pasteurs, parce que c'était une église dans laquelle il y avait plus de 10 000 personnes. Donc quand vous vous ratez en famille, bon, il y a toujours la mamie qui dit « c'est pas trop grave ». Mais quand c'est devant 10 000 personnes que vous venez juste de rater la prédication que vous avez préparée pendant des jours, et là il passe devant la pièce là où il y avait le conseil d'administration et puis quelques anciens pasteurs, et puis il entend cette phrase d'un pasteur senior qui dit comme ça, « Aïe, 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 aïe. » Le grand-père était loin, le papa, donc c'est-à-dire son papa Tony était loin, mais le fils, il a voulu faire comme eux, mais il n'a pas le don. Hein. Et là, il est dit, je me suis écarté de la porte. J'ai fait comme si j'étais fort, mais j'ai pleuré comme une fille. Parce que, vous voyez, quand vous avez des super bons à côté de vous, tous vos dons, vous ne les trouvez pas terribles. Et aujourd'hui, Matthew Barnett est en train de faire une œuvre extraordinaire à Los Angeles. C'est lui qui a créé le Dream Center. Il prend soin de plus de 1000 personnes en réinsertion avec des prostituées, avec des personnes qui ont été dans la toxicomanie. C'est la plus grande œuvre chrétienne qui est faite aux États-Unis. C'est peut-être le Dream Center de Matthew Barnett. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui vous dit « vous n'avez pas le talent ». Aujourd'hui, il prêche régulièrement devant 1000, 1500, 2000, 3000 personnes et plus personne ne critique ses prédications. Mais vous voyez, au début, il y a toujours quelqu'un. Si ce n'est pas vous-même, mais ça va vous limiter. Et il a dit « j'ai choisi ». Je savais que, parce qu'après il allait voir sa grand-mère, et sa grand-mère lui dit « mais non, c'était pas si mauvais que ça, c'était bien ». Il dit « j'apprécie les grand-mères qui savent mentir correctement ». Il dit « je savais qu'elle mentait, mais ça m'a quand même fait du bien ». Et il a choisi de dire « Seigneur, tu peux faire mieux avec ce que j'ai ». Et j'ai choisi de ne pas me limiter. Je voudrais voir le temps, le moment était vraiment mal choisi. Parce que ce que le texte ne vous dit pas d'après ce qu'on a lu, mais c'est qu'ils étaient cuits, les disciples. Je veux dire, le moment, il y a des moments où vous avez des forces à donner, et après, quand le mois de septembre, la rentrée a été suffisamment chargée, déjà au bout de 15 jours, vous êtes vidés. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient plus de force. En fait, ils venaient de sortir d'une campagne d'évangélisation, méthode commando Jésus. C'est-à-dire, les disciples avaient été envoyés par Jésus, c'est ce qu'on voit dans le verset d'avant. Ils étaient envoyés par deux, ils n'avaient pas de sac, ils n'avaient pas pris de pain, ils n'avaient rien pris, ils n'avaient pris qu'un seul vêtement, pas de rechange. Et Jésus leur a dit, allez, et bénissez, guérissez les malades en les oignant d'huile. Oui Seigneur, donc ils avaient tout, un flacon d'huile, point barre. Et ils avaient dû dépendre de Dieu, ils reviennent de leur campagne d'évangélisation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé lorsque le pasteur ou quelqu'un, ou tout simplement le Saint-Esprit vous dit « mets-toi au boulot » et que tu as envie de dire « Seigneur, j'ai juste droit à une pause. » C'est, tu vois, là j'ai eu un emploi du temps un peu chargé, Seigneur. Ce n'est pas le moment pour moi de me réinvestir dans un service à l'Église. Et regardez, ils voulaient Jésus pour eux tout seuls. Parce que quand ils arrivent, à leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de ce qu'ils avaient enseigné. Ils sont fiers, franchement, ils ont bossé pour Dieu. Ils ont passé des journées de fou et ils ont envie de faire le bilan. Ça vous est déjà arrivé. Je parle pour les hommes, moi, ils vont me comprendre, mais vous avez assuré dans votre travail, vous êtes heureux, vous allez le soir, vous rentrez voir votre épouse et vous avez juste envie de dire vos réussites. Ou si vous êtes un jeune ado, vous avez été meilleur à l'école que d'habitude, vous avez envie de parler à maman, quoi. Et vous avez envie de elle pour vous toute seule. Il y a des moments où on a envie que nos parents, nos proches que l'on aime, ils aient une écoute attentive et on soit seul à seul. Ça vous parle, ça? Est-ce que vous n'avez pas envie, des fois, avec Dieu, vous avez juste envie de dire à Dieu, écoute Seigneur, je t'ai beaucoup servi les années précédentes, mais là, je suis un peu fatigué, je voudrais juste me retrouver, toi et moi, tout seul. Je vais privilégier ma communion avec toi, je vais arrêter mes services. D'accord. Et Jésus est même d'accord, parce que Jésus leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé, vous prendrez un peu de repos. Ok, Dieu est d'accord. Bonne nouvelle, quand vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus, que vous avez besoin d'un break, et ben Dieu est prêt à vous choyer, à vous parler seul à seul, sauf qu'il y a des squatteurs. Pardonnez-moi l'expression, qui vont s'incruster dans ce moment où les disciples fatigués, qui ont beaucoup donné, ont envie d'être seuls. Il est dit, alors attendez, ils ont fait l'effort même d'aller dans une barque pour déménager, pour être sûr de ne pas avoir de squatteur. Ils ont presque changé d'église pour qu'on leur demande de rien faire. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les bourgades, on accourut à pied, on les devança à l'endroit où ils se rendaient. La misère. Vous avez envie d'être seul, de faire votre break avec Dieu, de vous poser dans un coin tranquille, et là, vous voyez une bande d'affamés, autant que vous d'ailleurs, parce qu'ils n'ont toujours pas mangé, je vous rappelle, qui vient et les gens sont affamés de Jésus. Ça vous est jamais arrivé quand vous essayez de manger, qu'il y ait des gens qui vous dérangent, énervant, hein. Vous avez très très faim. Et puis il y a quelqu'un qui vous pousse. Excuse-moi, pardon. Tu reprends ton sandwich. T'essaies. Moi, ça m'est déjà arrivé. À la plage, vous n'avez jamais vu ça? Deux, trois personnes qui marchent sur votre serviette. Vous êtes juste un petit peu énervé, quoi. Vous réessayez de vous concentrer. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui. Vous êtes tout le temps troublé. C'est énervant et c'est profondément frustrant. Et c'est ce que vivent les disciples. Ils essayent de manger quelque part, deux squatteurs qui passent. 3, 4, 5, 6, les gens commencent à s'installer. Ils sont obligés de déménager, ils prennent la barque, ils vont ailleurs. C'est quelques temps passent, ils vont ailleurs et tout d'un coup, de nouveau, des squatteurs encore. Alors, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Le cumul peut vous pousser au craquage. Verset 32, regardez. Ils ont fait tous les efforts supplémentaires. Verset 32, ils sont allés à l'écart. Verset 33, ce qu'ils craignaient arriva. Les gens arrivent, pire. Verset 34, aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Oh non, Seigneur, tu vas te faire avoir. Il fut pris de pitié pour eux. Parce qu'ils étaient, oh non Seigneur, un peu pour nous Seigneur, zut pour les autres. Écoute, ces gens-là, ils attendent leur tour. Nous, on vient de faire 2 semaines d'évangélisation, on veut juste être tranquille Seigneur. Mais comme Jésus est rempli de compassion, il trouve quelqu'un qui est dans un état plus délabré que toi. Et je suis désolé, il n'y a rien de personnel là-dedans, mais Dieu aime les gens. Et là, ton amour propre est testé, ton caractère est testé. Ils sont, à mon avis, déjà bien énervés. Mais ils patientent. Combien de temps ils vont patienter? Combien de temps ils vont patienter sur eux? Vous avez lu? Combien de temps ils vont patienter? Ils vont patienter jusqu'à bien tard. C'est-à-dire que toute la journée, alors qu'ils ont super faim, qu'ils sont fait un peu arnaquer dans leur conception par rapport à leur temps avec Jésus, que Jésus a encore parlé longuement parce que les gens en face avaient vraiment envie de l'entendre. Donc ils disent, ok Seigneur, c'est bon, je pense qu'ils n'ont pas de montre à l'époque, mais ça doit être un peu comme ça. Ok, il est 4h30, j'espère que la prédique s'arrête bientôt. Hein. Jacques, je rêve ou il est déjà 6h? Oui, ici, il est 6 heures. Ouais, mais là, attends, il y a 5000 personnes. Le maître, là, il est parti, hein. On ne va pas l'arrêter, hein. T'as amené quelque chose, toi? J'ai rien amené du tout. Hein. Et c'est lui qui nous a dit de rien amener en plus. Non, mais les plans de Dieu, des fois, c'est bizarre quand même. Il me dit, viens, investis, donne-toi, donne à fond pour le service, je le fais. Ben, je veux quand même avoir de quoi manger après. Rien. Enfin, il y a un moment, vous aimez la parole, mais bon. Au bout de 5 heures de prédication, je veux savoir qui c'est qui est encore là. Alors, au bout d'un moment, il y a la chair qui parle. C'est le verset 36. Regardez. Oui, il y en a quelques-uns qui vont se sentir un peu visés. Enfin, moi, je me sens visé. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Vous n'osez pas dire simplement « Dégage-les, Seigneur ». Alors tu dis « Ces gens ont certainement autant faim que nous ». Et je préconise l'idée qu'on leur donne la possibilité d'aller au restaurant du coin pour avoir de quoi manger. Bip. Tu viens de faire un énorme mensonge. Tu viens de soulager ta conscience avec l'histoire du restaurant du coin dans lequel les gens peuvent aller. Mais tu sais très bien que puisque tu as pris la barque pour aller dans un lieu désert, il n'y a pas de restaurant dans le coin. Et les disciples savent très bien quand ils disent ça, que c'est pour soulager leur conscience qu'ils le disent, mais qu'en vrai, les fermes des alentours et les hameaux, il n'y en a pas pour 5000 personnes. Ça veut dire qu'il y en a qui vont faire un jeûne forcé ce soir. Et à mon avis, quelques milliers. Donc les disciples se disent juste, nous, on a déjà donné, à eux, un peu de jeûner. Et là, Jésus, alors vous êtes d'accord, le moment, ce n'est pas le bon moment. Jésus leur dit, verset 37, mais Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Répétez-le avec moi. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Incroyable. Seigneur, tu nous as dit de venir avec rien. On est cuit. Et là, tu nous dis, donnez-leur vous-même à manger. En gros, et ils comprennent très très vite ce qui va se passer. C'est qu'ils sont 12. Et il y a quelqu'un qui va devoir aller acheter le casse-croûte. Et ça, il n'y a personne qui a envie de le faire. Vous vous rendez compte? On est le soir, il est 18h. Et là, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Jacques, Jean, Pierre, ils... Ah non. Alors là, moi j'ai déjà... Non, pas moi là. Là, je suis rincé. Et parmi... Alors, pour avoir plus d'explications, pour ceux qui vont répondre à la question, ceux qui vont avoir le courage de se sentir concernés ce jour-là, on le lit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. C'est le même texte. Ce même texte, ça les a tellement marqués. Ils l'ont marqué partout. Il y a des jours comme ça, tu marques tout. Jean, chapitre 6. On nous explique un petit peu qui c'est qui va réagir. En général, d'habitude, c'était Pierre. D'accord ? En général, si c'était un texte normal, c'est Pierre qui répond. Il faut croire que Pierre, ce jour-là, a décidé d'être silencieux. Jean, chapitre 6, au verset 5. Jésus regarda autour de lui, vit une foule nombreuse, donc c'est le même texte, et demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout le monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Tu sais que Dieu sait ce qu'il veut faire avec ta vie. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent. Il calcule très vite, Philippe. C'est un peu le matheux de la bande, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Alors, on est dans le qui. Je vais vous montrer que les personnes ne sont pas les bonnes. Pourquoi les personnes ne sont pas les bonnes? Parce que quand on voit les disciples, je ne vais pas revenir dessus, vous avez compris que personne ne veut se sentir concerné à l'appel ce dimanche matin. Tout le monde dit, moi je donne, c'est à l'autre de bouger. Moi j'ai déjà un service, à l'autre de faire. Moi je suis déjà fidèle dans mes offrandes, je laisse la main au voisin. J'ai déjà donné, je fais quelques œuvres sociales et je suis gentil à la maison. Avec les enfants que je dois gérer et assurer déjà un temps de prière tous les soirs, j'ai mon job. Franchement, je fais assez déjà. Un peu aux autres de faire. Et tout le monde dit ça à l'autre. Alors Philippe, c'est ceux qui vont faire les calculs, il y a peut-être des personnes dans cette salle qui ressemblent à Philippe, qui focalisent sur quelle serait la solution la plus logique pour sortir du problème. Souvent c'est les hommes, mais bon, pas, c'est pas que ça, des fois il y a des femmes aussi qui réagissent comme ça. Ils se disent, ok, le problème, 5000 personnes multipliées par le nombre de pains nécessaires, multipliées par le prix actuel du pain, pas en euros mais en deniers. Et ça donne tant. 200 deniers, un truc énorme. C'est énorme. Mais il fait le calcul, et quelque part, en faisant le calcul, il se dit, maintenant, j'ai démontré que c'était impossible. Pour certains d'entre vous, vous allez être très logique, et vous allez dire, voilà, l'idéal serait ça. Je sais ce qu'il faudrait faire. Je rêve d'une église dans laquelle il se passe ça, ça, ça. On soit accueilli avec un super service d'accueil. Je rêve que la prédication soit aussi bonne que courte. Je rêve que la louange soit vraiment profonde, mais en même temps que ça ne soit pas tout le temps les mêmes répétitions et que ça soit des chants qui me plaisent dans mon style. Je rêverais que mes enfants soient pris en charge. Et donc, vous décrivez l'église parfaite et vous dites, ok, ça coûte vraiment cher et je n'ai pas l'argent. Ça coûte vraiment beaucoup de temps, ça coûte vraiment beaucoup d'argent et franchement, je n'ai pas les moyens. Et il y en a d'autres, comme André, qui dit, moi je vais faire l'analyse inverse. Je vais regarder, non pas vers où on va, mais qu'est-ce que l'on a. Alors il dit, on va compter. Alors il arrive et puis il trouve quelque chose comme ça. Alors, j'ai trouvé que du macro, hein, c'est ce qui ressemble le plus. Donc il dit, voilà, je note qu'on en a deux comme ça. Voilà. Et qu'on a à peu près 5 de ce style-là, eh bien, on est mal barré. Parce qu'avec ça, 5 petits pains comme ça, alors là, ça devait être encore plus petit parce que c'est des galettes d'orge et donc ça ne devait même pas être gonflé. Donc là, en plus, il y a la levure qui fait tricher un peu la taille du pain. Mais en gros, il y a avec 2 poissons et 5 pains, vous n'allez pas bien loin. Hein. Et lui, il dit, ça ne va pas le faire. Entre ce qui est demandé et les moyens que j'ai à ma disposition, je pense, Seigneur, que le jeune ado, déjà lui-même, aura à peine ce qu'il faut. Et honnêtement, je suis assez culpabilisé de lui demander le peu qu'il a. Alors, justement, je voudrais vous dire que tout seul, vous n'arriverez à rien. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi, dans le qui, vous avez un problème. Et quand vous dites, c'est pas possible, Seigneur, avec moi, c'est pas possible. Mais c'est pas qu'avec toi que Jésus veut faire le miracle. C'est avec toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus moi, plus toi, plus lui, plus elle, plus eux. Et c'est parce qu'ils vont pouvoir accompagner ce petit jeune que Dieu va faire le miracle. C'est ensemble. Vous voyez, il y a un côté où faut vraiment être prêt à travailler en équipe. Et ça, beaucoup de chrétiens, à ce moment-là, ils arrivent déjà à gérer leur emploi du temps individuel à peine, mais alors gérer une équipe. Bon, ce jeune garçon, je vais l'appeler Kevin, pour des raisons de simplicité. Un, parce que c'est un jeune, et aujourd'hui, dans ma classe, tout le monde s'appelle Kevin, quand c'est des gars. Deuxièmement, je suis sûr que c'est un ado, parce qu'il n'y a que les ados qui savent, et surtout les mamans d'ados qui savent combien les ados gars, prénommés Kevin ou autres, ont tendance à manger. Alors, je me rappelle de ce traumatisme où, alors que j'avais 15 ans, j'avais invité mon copain, Jonathan. Il n'y a rien de mal, donc je peux dire même son nom. Jonathan Besnard, c'est vrai, hein, véridique. Il est pasteur maintenant, et je ne sais pas s'il entend un jour, mais voilà, petit coucou, clin d'œil. Quand Jonathan est arrivé chez moi, ma maman avait prévu de quoi manger. Enfin, elle avait prévu de quoi manger pour quelques personnes normalement constituées. À 9h, 21h du soir, Jonathan vient me voir et me dit, Yvan, est-ce qu'il y aurait des pâtes ? Des pâtes. Oui, on a des pâtes quelque part. Il a fait bouillir 1 kilo de pâtes. Je dis, il ne va pas le manger. Ça, c'est juste pour m'impressionner, il ne va pas le faire. Il a pris un pot de glace, vous savez, les barquettes de glace vides. Il a compacté ça de pâtes et il a tout fini. Et je me suis dit, comment est-ce possible ? Où est-ce qu'il... On avait déjà mangé ! Je regardais, je me dis, il y a un mystère. Il a un estomac que je ne connais pas. Il a à l'intérieur de lui des cavités cachées. Mais bon, et dernière chose par rapport à ce Kevin qui avait amené, je pense que ce Kevin qui avait amené, le seul à avoir pensé à amener son McDo ou son grec, c'est qu'il avait l'habitude d'écouter Jésus parce qu'il devait savoir, soit il avait l'habitude de venir écouter le prédicateur qui s'appelle Jésus, soit il avait envie de rester jusqu'au bout. Et c'était un bon signe. C'est-à-dire qu'il avait pris de quoi manger parce qu'il se dit « J'amène mon grec et mon McDo à l'église parce que je veux aller jusqu'au bout. » Et Dieu aime ces gars-là qui ont faim de ce que vous voulez, mais en plus qui ont faim de Dieu. Alors j'arrive à mon troisième et dernier point. Les moyens. Est-ce que les moyens sont vraiment là ? Eh bien, je pense que ce que Dieu te demande, c'est d'abord d'aller faire l'effort. Et c'est ce qu'il demande aux disciples, et ce qu'il te demande à toi, ma sœur, ce matin, toi qui es une jeune fille ce matin, est-ce que tu es prêt à faire l'effort d'aller voir ce dont tu disposes ? Est-ce que tu es prêt à réfléchir ? On peut faire la pause quelques minutes, là. Si je réfléchis à ma vie, qu'est-ce que je pourrais apporter au Seigneur ? Ce matin, je sais que ça concerne que les personnes qui sont déjà engagées, qui ont une relation personnelle avec Dieu, qui savent combien Jésus a changé leur vie et qui ont envie juste de faire un maximum pour Dieu. Alors, tu regardes ta vie et tu dis, qu'est-ce que je peux donner en termes de temps ? Quels sont mes talents ? La Bible dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Oh oh. L'excuse de dire « je n'ai pas reçu de don », ce n'est pas biblique. La Bible dit, à propos de toi, et tu mets ton prénom, « car elle a reçu de Dieu un don particulier qu'elle le mette au service des autres comme une bonne gérante de la grâce infiniment variée de Dieu. » À propos d'un gars ce matin, car il a reçu de Dieu un don particulier qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Vous avez des dons naturels, il y a des dons surnaturels que Dieu veut donner, il y a des dons spirituels. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Il dit à un autre moment, si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Si tu donnes, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant des chrétiens, parce que c'est un chrétien, parce que c'est un enfant de Dieu. Donc là, il est dit dans l'église, hein, parce que les disciples, c'est dans l'église. Après, je ne dis pas qu'il faut aimer les gens au dehors aussi. Hein. C'est aussi un des points. Mais voilà, celui qui aime Jésus aime son église. Celui qui donne ça au plus insignifiant des disciples, parce qu'il est mon disciple, ne perdra pas sa récompense. Alors, vous voyez le problème. J'approche de ma conclusion. Le problème, c'est que vous voyez vos moyens et vous dites, ça ne suffit pas. Parce que vous réfléchissez de façon humaine. Et c'est vrai que si je regarde ce morceau de macro, effectivement, il n'y a pas d'énergie là-dedans pour 5000 personnes. Mais, regardez ce que le texte nous dit. Marc 6, verset 39. Regardez la méthode de Dieu. On va terminer avec cela. Marc 6, 39. Alors Jésus leur ordonna de faire asseoir la foule par groupes sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains, tous les pains comme ça, là, et les 2 poissons. Il les leva vers le ciel, prononça la prière de bénédiction. Il partagea les pains, coupe. Il donna les morceaux aux disciples pour qu'ils le distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 maquereaux entre tous, les 2 poissons entre tous. J'espère que c'était des maquereaux et pas des sardines. Eh bien, ça ne change rien du tout, parce que tout le monde mangea à satiété. On ramena les morceaux de pain qui restaient. Il eut 12 paniers pleins et il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Hein ? Au moment où tu dis, j'ai plus rien à donner. Au moment où tu dis, je ne suis pas avec les bonnes personnes pour pouvoir donner quelque chose. Au moment pour dire, ma technologie n'est pas suffisante pour Dieu, mes moyens, mes talents, insuffisants. C'est à ce moment-là que Dieu peut utiliser le plus ce que tu as dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de personnes qui disent, j'ai les solutions. Il a besoin de personnes qui courent vers lui, qui disent, Seigneur, tu as ma solution. Tu as ma solution, tu as la solution que je peux apporter aux autres. Alors ils viennent, ils apportent le peu de les 2 poissons, les 5 pains. C'est quoi tes 2 poissons et tes 5 pains? Ils les apportent à Jésus, ils disent, Seigneur, je n'ai peu de choses, mais ce que j'ai, je te le donne. On prononce la prière de reconnaissance. Vous savez que quand Dieu, tu commences à remercier Dieu pour tes 5 petits pains. Ah, c'est peut-être un des derniers secrets que vous n'avez pas compris. C'est que Jésus a loué Dieu pour la chance d'avoir dans une foule de 5000 personnes 5 pains. Tu comprends ça? Quand Dieu voit ta vie, tu dis, Seigneur, 2 poissons. Et Jésus dit, 2! T'as 2 poissons! Alléluia! Il prend les 2 poissons. Il prononce une prière de bénédiction. Il dit, Seigneur, pour ma sœur, qui a autant de problèmes et si peu de solutions. Je te bénis pour les petites solutions qu'il y a en elle. Et je te loue d'avance de ce que tu vas faire. Et je te loue d'avance de ce que tu vas faire. Vous comprenez ça? Et là, au moment, je sais pas, j'aimerais bien voir la vidéo là. Vous aussi, non? Tous les magiciens là, ils seraient tellement frustrés de voir enfin un magicien qui travaille au réel, où il n'y a pas d'arnaque derrière, où il n'y a pas d'astuce, etc. Là, devant 5000 personnes, les 5 pains se sont transformés. S'il en fallait 5 pour une personne, vous imaginez combien il fallait pour tout le monde? 5 fois 5000, 25 000 pains. 25 000 pains, si je fais le calcul, ça fait la pièce entière. Hein. Vous imaginez, et donc en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils étaient dans les paniers, ils donnaient... Oh, ben, y en a un autre. Ben, y en a encore un autre. Ben, y en a... Et du coup, parce que sinon, ils ne pouvaient pas les stocker. Vous voyez, il y avait un problème de camion, autrement. C'est-à-dire que c'était dans les paniers que ça se multipliait. C'est génial! C'est dans ton panier que Dieu va multiplier les choses. On va fermer les yeux ensemble. Est-ce que tu es prêt à amener ton panier au Seigneur? Commence déjà à faire asseoir les gens parce que la bénédiction de Dieu vient. Jésus commence déjà à les faire asseoir alors que la multiplication n'a pas eu lieu. Oh, Seigneur, si je commence à viser des objectifs et que je n'ai pas les moyens derrière, ça va me décourager pire. Ok, c'est vrai. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Seigneur, j'ai si peu à t'offrir, mais ce que j'ai, je te le donne. Je voudrais que, alors qu'on ferme les yeux, tu réfléchisses aux choses que Dieu t'a données, aux talents que Dieu t'a donnés. Dieu t'a béni dans ton métier. Dieu t'a béni dans ton salaire, c'est une grâce. Sois généreux avec Dieu, sois généreux avec les autres. Sois fidèle avec Dieu, sois fidèle avec les autres. Dieu t'a donné un appartement, que ce soit une place de convivialité, une place de chaleur humaine. Que tu puisses inviter les gens chez toi. Tu peux offrir des repas aux autres. Dieu t'a donné des talents de cuisinier et de cuisinière. Alléluia. Tu peux même le faire à l'église, tu peux le faire chez toi. Dieu t'a donné un sourire. Tout le monde se dit, ah, t'as un joli sourire. Tu peux accueillir les gens dans l'église. Tu peux dire un grand bonjour à ta voisine en bas de ton immeuble. Seigneur. Quels sont tes moyens? Tu es quelqu'un d'intelligent, tu maîtrises bien les chiffres. Tu peux faire des choses avec Dieu pour ça. Tu es quelqu'un qui a une fibre sociale, tu as à cœur d'aider les pauvres. Il y a un service alimentaire qui va se créer dans l'église, mais bon, il y a d'autres choses aussi. Viens, présente-toi, cherche, commence à frapper, dire Seigneur, je ne veux pas garder mes 5 pains et mes 2 poissons pour moi. Je suis prêt à bouger. Mets-toi en route, donne du sens à ta vie, donne du sens à ta vie, parce que sinon, tu vas arriver le soir, tu n'auras eu rien à manger, tu seras frustré contre Jésus, tu seras frustré contre son église, tu seras frustré contre les personnes autour qui ont une vie comme la tienne et ça ne marche pas, et tu diras, je ne comprends pas, et les années passent et Dieu ne donne pas. Et... Inverse le processus, commence à donner. Commence à donner les choses que tu rêverais d'avoir.
Parler de ta voix dans mon cœur. je l'entends, où je cours.